Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Ryan Coffey. Salut Ryan.
Bonjour Raphaël, tu vas bien ?
Ça va, je te remercie. Bienvenue à toi dans cette émission BPM.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Avec plaisir. Ryan, tu es producteur, musicien, collaborateur de Luigi depuis 2017. Tu as donc travaillé sur les différentes sorties de Luigi depuis, mais aussi avec des artistes comme D6, Turi ou encore Fari. Et tu as également produit tes propres disques instrumentaux. Et avant de parler de ce parcours discographique, j'aimerais d'abord qu'on parle de ton parcours d'auditeur. Quels sont tes premiers souvenirs liés à la musique ?
Franchement, forcément, c'est mes parents. Mes parents, mes oncles, mes tantes, parce que ça écoute beaucoup de musique à la maison de manière générale. Mm-hmm. Quand je vais manger chez mes tantes, quand je vais voir mes oncles, mes cousins, etc., ça écoute beaucoup de musique. Et moi, mon père fait de la musique, donc faisait.
De manière professionnelle ou...
On peut dire ça comme ça, ouais, carrément. Il produisait, il rappait aussi.
D'accord.
C'est ça, en fait, mon premier lien avec la musique, c'est vraiment mes parents et mon père, je dirais, en particulier, parce que vu qu'il faisait de la musique, il en écoutait tout le temps, il en faisait tout le temps. Donc, j'ai grandi en le voyant faire de la musique, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qui m'a automatiquement inspiré à en faire moi. Donc voilà, après mon premier souvenir vraiment en tant qu'auditeur de moi-même, mm-hmm. tu vois, les premiers trucs que j'ai écoutés de moi-même, je crois, c'est vraiment This is La Peste, tu vois.
Okay.
C'est vraiment le premier truc que j'ai écouté qui m'a parlé, dans lequel je me reconnaissais. Et je crois que c'est l'album This is the End, pour être précis.
Donc celui qui sort en 2009.
C'est ça, exactement. Donc c'est un album que mon père en fait écoutait dans la voiture. Et c'est mm-hmm. le premier truc que je suis allé taper sur YouTube de moi-même pour écouter, etc. Et il y avait aussi un peu de Féfé, je crois, parce qu'il a un album qui sortait en 2009.
Oui, c'est ça.
J'ai oublié le titre.
Ouais, moi aussi.
Jeune à la retraite ?
Jeune à la retraite ou jeune à l'ancienne ou quelque chose
comme ça.
Jeune à la retraite, tout à fait.
Et pareil.
Féfé, anciennement Phoenixy, du Sainz Soupacrou.
Exactement.
Pour ceux qui connaîtraient pas. Ouais.
Et voilà, c'est deux disques qui m'ont parlé. C'est les premiers disques que j'ai écoutés dans lesquels je me reconnaissais lyricalement, musicalement, etc. Mm-hmm. Et de là, voilà, après j'ai suivi un peu, du coup, le retour de This Is, sa trilogie Lucide, etc. Mm-hmm. Et c'est mon premier pas en tant qu'auditeur indépendant, quoi, on va dire.
D'accord.
Donc voilà.
En grandissant justement dans cet environnement musical, mmh. avec une famille qui est très mélomane, mais aussi un père du coup qui lui-même faisait de la musique, mmh. est-ce que tu as eu aussi ce truc d'être sensibilisé au fait de faire de la musique ? Est-ce que tu commençais à toucher des instruments, des machines, en étant enfant, adolescent ?
Ouais, en fait, mon père, lui, composait sur un logiciel qui s'appelle Cubase. Mmh. Et tu sais, comme tous les compositeurs, il fait son truc et puis des fois, il va faire sa pause ou il va manger, il va se faire un truc à manger, etc. Et moi, entre-temps, je passe dans la chambre, je vois l'ordi allumé et tout. Donc, tu sais, je vais m'asseoir, je teste des... Je me suis fait tuer plein de fois parce que j'ai supprimé des trucs et tout. Je savais pas ce que je faisais. Donc, je m'asseyais sur le truc, je supprimais des pistes, des machins et tout. Et il pétait les plombs. Mais c'est la première fois que j'ai touché vraiment à un clavier, etc. Donc, j'étais petit, je devais avoir peut-être 8 ans, 7 ans, tu vois.
Et t'es né en quelle année ?
99.
Ok.
Donc voilà. Et c'est venu bien après ce truc de moi-même vouloir récupérer un clavier et faire de la musique, mais j'avais déjà touché un clavier quand j'avais 7-8 ans.
Et ton père, il a un parcours discographique, je veux dire, il a réussi à se faire un petit nom.
Alors, dans la ville, ouais. Mais je pense qu'il n'y a rien qu'on puisse... Enfin, il y a peut-être des trucs qu'on peut retrouver sur YouTube, des mm-hmm. trucs qui ont été réuploadés, etc. Mais je pense que c'est un peu compliqué de trouver des choses. Mais ouais, il avait un groupe qui s'appelait RAC.
Okay.
Il produisait... Il a bossé avec peut-être des mecs que toi, peut-être tu connais. Sléo, non, comment...
Sléo, bien sûr.
Ouais, voilà.
Sléo, groupe de la banlieue sud de Paris au début des années 90.
Voilà,
quoi, tout
exactement.
À fait, qui traînait un petit peu avec... ils ont lancé Fab, par exemple.
Et exactement, voilà, exactement. Bah voilà, il bossait avec eux... Il a bossé avec une période, il a produit, tu sais quoi, des morceaux sur un disque de Foura.
Afoura.
Afoura.
Le rappeur new-yorkais Afoura.
Rappeur new-yorkais, exactement.
Okay.
Il a produit des morceaux sur un disque de ce gars-là. Donc voilà, après, il produisait beaucoup pour les mecs de sa ville. Mm-hmm. Il a un cousin à lui que je considère comme mon oncle, pour qui il produisait beaucoup de disques, que j'ai beaucoup écouté aussi, qui était un de mes rappeurs préférés, carrément, quand j'étais petit, qui s'appelle Dundee.
OK.
Stevens, de son vrai prénom, quoi. Et voilà, c'est ça.
Très bien, et ben, on le salue du coup parce qu'il t'a transmis un petit peu
merci, papa.
Le flambeau et la passion. C'était quoi tes modèles de production à tes débuts? Là, tu nous parlais justement des disques qui t'ont marqué, des trucs qui t'a fait sensibiliser au rap et au fait que tu aimais cette musique. Quand t'as commencé justement à te mettre au son, est-ce que t'avais des modèles? Et parce que forcément, avant de faire, on s'inspire.
Bien sûr.
C'était quoi un peu tes modèles, toi?
Alors, pour reciter mon père, forcément, j'écoutais beaucoup ce qu'il faisait. J'étais fan de ce qu'il faisait. Donc, mon père, dans un premier temps, j'ai eu deux cousins qui font de la musique aussi, dont je me suis inspiré. Donc, un qui s'appelle Randy, qui est actif toujours dans la musique en tant qu'ingé son,
okay,
et qui a des artistes et qui a un label et qui produit, etc. Et un cousin à moi qui s'appelle Zach, que je considère comme un génie, mais vraiment un génie. Malheureusement, il sort rarement des choses. C'est un mec un peu, tu sais, il est un peu bazardé, si on peut dire ça comme ça, sans lui, voilà, sans lui jeter la pierre. Mais il a pas un rythme très très carré, on va dire, tu vois. Donc, mais un génie depuis qu'il est jeune. Il produit, il rappe, il s'enregistre, il fait tout, etc. Et c'est vraiment un génie de la musique pour le coup. Là, il est un peu plus dans le piano. Il fait le concert. Enfin, je crois qu'il passe des examens pour devenir professeur de piano. Donc,
ah ouais,
il est un peu dans autre chose.
Ah ouais,
mais il fait. C'est franchement, moi, j'aimerais bien vous faire écouter un jour des trucs, mais c'est absolument magnifique ce qu'il fait. Et donc, ça, c'est mes premiers modèles directs. Et ensuite, forcément, le premier producteur populaire auquel je m'intéresse, c'est Timbaland. Je pense comme beaucoup.
Ouais.
Parce que déjà, il a une patte. Donc, tu sais, c'est identifiable. Dès que tu écoutes un truc de lui, tu sais que c'est lui. Tu vois, tu n'as pas besoin de lire les crédits. Tu sais que c'est lui. Et donc, c'est le premier mec, je pense, que j'essaye de copier indirectement, quoi.
Ce qui est plutôt un bon modèle au départ.
Franchement, ouais, je sais pas si on peut faire mieux.
Je t'ai posé une question avant qu'on se voit en off, à savoir quelle serait éventuellement ta production préférée, une production qui était très importante dans ton parcours justement. Et tu m'as cité le morceau Say You Will de Kanye West,
ouais,
sur l'album 808 and Our Breaks qui sort en 2008.
Exact. Why would she make calls out the blue? Now I'm awake, sleeping soon. Et j'ai un souvenir qui est encore lié à mon père, du coup, parce que mon père était aussi prof de danse, il l'est toujours d'ailleurs, et à un cours pendant un échauffement, il y a ce morceau-là qui joue. Et j'ai l'image encore de mon père qui dit « Putain, les carrés, ils ont vraiment des beats de ouf. » Et donc, quand il dit ça, je prête plus attention à l'instru, tu vois. Et j'essaie de comprendre pourquoi il dit ça. Et je me rends compte, et encore plus aujourd'hui, que c'est juste, c'est incroyablement bien fait, parce que c'est épuré, la cadence, elle est incroyable. Lui, comment il laisse respirer l'instru, comment il utilise l'instru, c'est incroyable. La progression, enfin, tout est incroyable. Et puis,
les choix des drums aussi, il y a plein de choses qui sont
intéressantes. Tout est dingue. Et c'était très novateur, c'était des choix qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. L'espèce de son d'hôpital là, tu vois, qu'on entend et tout machin. Boop. Ouais, exactement.
Boop.
Exactement, de cardio, je sais pas comment ça s'appelle là.
Ouais, mais de cardiogramme.
Cardiogramme, exactement. Ouais. Moi, c'était la première fois que j'entendais ces sonorités. Et d'ailleurs, au tout début, je pensais que c'était un morceau de Drake, parce que Drake l'avait repris, enfin un remix, je crois.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et donc, du coup, je pensais que c'était un morceau de Drake. Et
plus, c'est vrai que c'est tellement dans l'identité du départ de Drake, ces trucs très atmosphériques.
Exactement.
Que
et du
je
coup,
la confusion, ouais.
J'étais en mode, ok, Drake, putain, il a des sons de ouf. Et du coup, je me suis intéressé à Drake de par ça. Et c'est genre un an ou deux ans après que j'ai capté que c'était un morceau de Kanye, en fait. Et du coup, ouais, c'est tout ce que j'aime, c'est épuré. Je pense que je m'inspire inconsciemment, même consciemment, de ce genre de musique, quoi.
À quel moment tu commences à faire tes premiers vraiment instrus sur lesquels tu as une sorte de confiance qui se crée en disant « je peux les faire écouter, je peux éventuellement essayer de les faire placer ». Est-ce que tu avais un entourage de rappeurs, voilà.
J'avais pas d'entourage de rappeurs. excepté les membres de ma famille qui font de la musique à leur échelle, etc. Ou mon cousin, comme je te disais, qui rappe et tout. Et même mon oncle, du coup, qui rappe aussi.
Donc tout ça, pour que les gens situent, c'était, tu vis à Metz à ce moment-là.
Je grandis à Metz, j'ai toujours vécu à Metz. Et ça, c'est autour de, on va dire, 2014-2015, où je commence à faire écouter mes instrus donc, à mon père. Où je suis en mode regarde, écoute et tout. Donc lui, il se moque beaucoup de moi au début parce que tu sais, je fais une musique qui est très. Au départ, je fais une musique qui est très, très contemplative, très. C'est pas une musique sur laquelle tu viens chanter ou rapper, quoi. C'est limite une musique de documentaire animalier, un truc très planant.
Musique d'illustration, quoi.
Exactement, tu vois. Et je pense que j'ai un peu gardé cette patte-là, même si il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Ouais, quand tu fais des choses tout seul, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est différent de ce que tu fais quand tu produis pour
des interprètes, bien sûr. Exactement. Et du coup, c'est les premiers trucs que je fais. Et à force, forcément, mon ambition, c'est de placer pour des artistes, que ce soit même mon oncle ou les gens de ma famille, tu vois, j'ai envie de faire de la musique avec des interprètes. Et donc, j'essaye de modifier certaines formes de ma musique pour l'adapter à ce qu'elle puisse être utilisée pour des interprètes, tu vois. Donc ouais, je pense que vers 2015, on va dire, tu vois, c'est l'année où j'ai commencé à faire des morceaux et les faire écouter à mon oncle, mes cousins, pour qu'ils puissent poser dessus, etc. Tu vois, c'est le début de ça, ouais.
Ok. Et quel souvenir tu gardes de ces premiers morceaux de placement, justement ?
Ben franchement, des bons souvenirs, hein, parce que c'est, tu sais, si tu veux, dans ma chambre, j'avais un micro, j'avais mon clavier, mes enceintes, etc. Et du coup, à chaque fois que je rencontrais, par exemple, comme je te disais, mon père était prof de danse, donc à la danse, il y avait du monde, etc. Souvent, il y avait des gens qui chantaient. J'avais rencontré un gars là-bas qui s'appelle Ricardo, qui chantait. Donc, il était venu, on avait fait des morceaux ensemble. C'était des morceaux que je trouvais archi cool à l'époque et tout. Ça me rendait. J'étais très épanoui, tu vois. J'étais très content de faire ça. J'avais l'impression de contrôler un peu le truc, d'être producteur en mode ouais, tu devrais poser un peu plus comme ça et tout. Tu vois, c'était le début de tout ça. Et mon cousin, du coup, dont je te parlais aussi au début, qui.
Zach ou
Randy.
Randy, ok.
Voilà, qui est mon grand cousin qui. Lui a un label depuis un petit moment, tu vois. Donc, il avait des artistes avec qui il était en contact, etc. Et on plaçait pour ces artistes, en gros, tu vois. On faisait des morceaux avec eux et ils faisaient des compiles avec tous ces artistes, etc. Et je produisais une bonne partie de ces trucs-là. C'est mon premier souvenir. Et franchement, je garde un bon souvenir de ces trucs-là, tu vois. C'était très cool. Franchement, moi, je garde un bon souvenir de ces trucs.
Tes premières expériences de studio aussi, j'imagine, du coup
Ça, c'est venu quand même bien après, je crois.
Ok.
Le studio, je crois que j'ai connu le studio vraiment pour la première fois quand je bosse avec This Is.
Ok.
Tu vois, c'est la première fois que je vais vraiment au studio, que j'assiste à des sessions d'enregistrement. En plus, on était en lockout, je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça, ou lock, je ne sais pas, en gros, on dormait là-bas, quoi.
D'accord.
Tu vois, on était là-bas tout pendant genre une semaine, on restait là-bas, etc. C'est la première fois que je découvrais vraiment le studio. Alors, très cool, ça c'était en 2018, je crois.
Alors justement, de ces placements dans ton entourage, en tout cas géographique, donc j'imagine que les artistes dont tu me parlais, c'est des artistes de Metz ou de cette région.
Exact.
Comment tu arrives à faire tes premières connexions avec DC et Luigi, parce que je crois que c'est un peu simultané ou en tout cas que ça arrive à des moments très proches, quoi.
Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour je vais à Paris je vais à Citadium et je croise un vendeur et je me dis, mais attends, je connais cette tête et tout. Et ce vendeur en question, c'était J-Well.
Ok.
J-Well, c'est le premier rappeur avec qui j'entre directement en contact et rappeur que je trouvais très fort, etc. En plus, donc c'est le premier rappeur avec qui j'entre en contact. Je le vois, je lui dis ouais, je fais des instrus, etc. Est-ce que t'as un mail et tout machin? Et en fait, de là, je lui envoie des mails, je lui envoie des instrus. Il aime beaucoup, mais il n'arrive pas à faire grand chose dessus, tu vois. Mais il me donne beaucoup de confiance en moi. Donc il est en mode voilà, franchement, c'est lourd tes trucs et tout. Bon, j'ai pas encore trouvé le moyen de poser dessus, comment poser dessus, etc. Mais franchement, je garde les trucs, je kiffe. Et de là, je me suis dit bon, bah en vrai, je vais tenter à envoyer des instrus à d'autres mecs. Et j'envoie des instrus à Tito Prince, pareil, on échange, il me donne aussi beaucoup de confiance, c'est lourd, etc. Machin, donc ça me conforte dans l'idée que c'est bien ce que je fais et qu'il faut que je pousse le truc. J'entre en contact avec un producteur qui s'appelle Marcus, qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a envoyé mes instrus et qui a poussé le truc avec DC's, tu vois, parce que lui avait déjà bossé avec.
Okay.
Donc, c'est un des premiers gars aussi de la musique avec qui je parle, avec qui à qui j'envoie des trucs, qui me donne des conseils, etc.
Donc, tu as eu la chance de tomber sur des gens assez bienveillants avec toi,
exactement,
en fait.
Exactement, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, tous ces gars-là, Jewel, Marcus, il y a Johan aussi, donc le réalisateur, qui était très proche de DC's à l'époque et tout, à qui j'envoyais beaucoup de trucs, qui me donnait des conseils parce qu'il a beaucoup de goût aussi. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'être en lien avec ces gars-là, qui m'ont poussé à améliorer ma musique, tout simplement, tu vois, et à évoluer pour parvenir à faire écouter pour la première fois mes morceaux à DC's, qui puissent aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, qui puissent les entendre, quoi. Donc voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, justement, du fait que premier contact, en tout cas, de DC's avec ta musique, c'est quoi? Ça a été quoi l'étape d'après? Vous êtes rencontrés, vous avez échangé?
Alors, l'étape d'après, c'est que donc Marcus, voilà, il fait passer le mot, etc. Faut que tu écoutes ce truc. Il lui envoie carrément, il transfère le pack de prod que j'avais préparé. Et donc, DC's veut qu'on se voit. Donc, il veut qu'on se voit. Il m'a mis la carotte 15 fois. Je suis venu à Paris 15 fois pour rien. Au final, c'est lui qui est venu à Metz. Et en fait, il voulait qu'on se voit dans l'optique directement de me signer dans son label, tu vois. Il est venu à Metz, il a vu mon père, il a parlé un peu avec mon père, etc. et tout. Et voilà comment ça s'est fait, en fait, tout simplement. Après, moi, j'allais sur Paris un peu plus régulièrement, je l'accompagnais en studio, etc. Et voilà.
Le premier son crédité, du coup, de ta part avec DC, c'est un morceau qui sort à l'été 2018 sur Facebook, sur sa page Facebook.
Exact.
Qui s'appelle Perdu.
J'ai perdu la foi, j'ai tout perdu. Je veux pas savoir ce que je suis devenu. Plus c'est ici, aussi
il y a ce truc très contemplatif, justement. Ouais. Des longues envolées de cordes, des petites percussions en guise de rythmique. C'est pas un beat rap tel qu'on l'entend.
Exactement.
C'est quoi? C'était déjà des choses que tu avais dans ta besace ou c'est des intentions que tu as données DC's à ce moment-là?
Alors, l'instru de ce morceau, elle part de... On était au studio, justement. C'était la période où on restait au studio pendant plusieurs jours et on dormait là-bas. Il y avait Augustin Charnay qui était là. Et on cherche...
Qui est pianiste,
exactement, qui est artiste aussi, auteur, interprète, qui fait un peu tout, en fait. Il fait tout, ce mec. Et, qui est très, très, très talentueux, incroyablement talentueux, et qui démarre un peu des accords, des trucs, etc. Donc, le morceau part de lui à la base. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il y a DC's qui est en train d'écrire, et moi, je prends, en fait, la boucle d'accords qu'Augustin était en train de créer, et puis je vais un peu dans mon coin, je mets mon casque et je me dis bon, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, en fait, à ce truc-là. Et du coup, je crée les percus de ce morceau qui, d'ailleurs, en vrai, si on parle franchement, sont très très inspirés, pour ne pas dire copiés, de Say You Will de Kanye, du coup.
C'est vrai que dans l'esprit du morceau, ça ressemble effectivement beaucoup.
Ouais. On est dans ça. On est dans ça. Donc ouais, c'est le premier morceau sur lequel je suis crédité qui sort, etc. Ouais, c'est le premier truc.
Et ensuite, on te voit aussi au crédit de l'album This Is Ella, qui sort quelques mois plus tard,
ouais.
Notamment sur un morceau qui s'appelle Tout Partira.
Avec le temps, tout partira. Sauf les blessures et les regrets.
Et ce qui se passe avec ce morceau, si tu veux, c'est qu'on est dans la voiture pour aller au studio, justement. Et DC's, il est en plein, tu sais, il écoute plein de trucs, plein de chansons françaises. Je pense qu'il cherche aussi un peu d'aspiration pour écrire. Et il écoute Léo Ferré, il écoute Avec le temps, il se dit putain, en fait, les mecs, c'était trop fort et tout, c'est trop bien écrit, c'est trop beau, c'est trop truc. Moi, je connaissais pas, c'est-à-dire, je connaissais de nom, je connaissais de loin, mais je m'étais jamais penché sur ça. C'est à partir de là, moi, que j'ai commencé à écouter vraiment de la chanson française et à m'intéresser au texte, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est en mode, on va reprendre les accords de ce morceau et on va refaire ce morceau et je vais faire des couplets de rap, tu vois. Ce qui s'est passé au final, c'est que les droits n'ont pas été cédés. Ouais. Donc, on a dû modifier un peu des trucs dans les accords pour pas que ce soit la même chose. Lui a modifié un peu des trucs dans le texte pour pas que ce soit la même chose, dans le refrain, pour qu'on puisse sortir le morceau finalement, parce qu'il était très attaché à ce morceau. Et moi, je suis content qu'il soit sorti. Moi, je le trouve très cool, ce morceau. D'ailleurs, j'aime pas du tout This Is Illa. J'aime pas l'album, mais j'aime bien ce morceau. Et pas parce que c'est moi.
C'est pas de l'ego trip.
C'est pas, ouais, voilà. Ouais, j'aime pas cet album, pas du tout.
Pourquoi ?
Je trouve que c'est le pire This Is.
Ok.
Je trouve que c'est le pire This Is. Moi, j'aime beaucoup This Is quand il contrôle ses émotions, quand il... Là, ça se voit que c'est un burn-out, cet album, tu vois. Ça se voit que c'est un fouillis de plein d'émotions différentes. Ça se voit que c'est un mauvais passage de sa vie. C'est plein de choses mélangées. Donc moi, j'aime pas cet album. J'aime pas comme il est produit. Mm. J'aime pas comme il utilise sa voix. J'aime vraiment pas cet album. J'étais très déçu. Finalement de bosser sur cet album parce que moi DC c'est un de mes rappeurs préférés à la base.
Ben oui, et puis c'est quelqu'un en plus à qui t'as grandi.
Et voilà, exactement. Et donc en fait il passe de Pacific qui est un merveilleux album je trouve. Et
qui est un album en plus où il y a une forme de recherche d'apaisement, il y a une
exactement.
De paix de l'âme quoi.
Exactement.
Alors on passe à DC là qui est beaucoup plus chaotique dans ce qu'il
exactement.
Raconte. Exactement.
Ouais. C'est chaotique, c'est vraiment le terme. Mm. Et du coup juste après Pacific je me dis bah magnifique, si en fait je bosse avec lui on va aller dans cette lignée et puis ouais. C'est une musique qui me correspond et tout. Et finalement, pas du tout. Donc, petite frustration à ce niveau, mais qui est passée au final, parce que voilà, tout finit par passer. Mais ouais, petite frustration quand même sur cet album. Surtout que l'album d'après est cool.
Qui est L'Amour, en fait.
Ouais, L'Amour.
Qui est sorti l'an
dernier.
C'est
ça. Il y a des morceaux très cool et tout. Il a retrouvé une couleur, un truc qui lui va mieux, je trouve. Donc c'est cool.
Donc ça, c'est le chapitre DC, qui a été finalement assez court pour toi, mais
très court.
Formateur et à la fois, j'imagine, satisfaisant pour l'auditeur de DC que tu avais été,
ouais,
pour pouvoir le rencontrer et faire des choses.
Carrément.
Et donc, en parallèle, c'est aussi le moment où tu commences à travailler avec Luigi.
Mmh, exact.
Puisque là, on était en 2018, mais en 2017, il y a des premiers morceaux sur lesquels tu travailles avec lui qui sortent. Mmh. Comment se fait la connexion avec Luigi ?
Exactement de la même façon que J-Well et Tito Prince et tout ça. C'est vraiment par mail. Donc moi, j'ai mon cousin dont je te parlais tout à l'heure, Randy, qui me fait écouter un morceau de Luigi qui s'appelle Marie-Jeanne.
Mm-hmm.
Et il insiste. Moi, je suis en mode, j'ai un truc un peu, tu sais, où je suis toujours en mode, vas-y, fais pas chier avec des trucs et tout. Et il me fait écouter, il m'envoie, il me dit, non, faut que t'écoutes vraiment ça, tu vas kiffer et tout. Donc j'écoute Marie-Jeanne et je me dis, ah ouais, c'est chaud quand même et tout. C'est rare d'entendre ces sonorités-là en France, d'entendre quelqu'un chanter de cette façon, d'utiliser sa voix de cette façon en France et tout. Et donc, je suis directement touché par le truc. Et je me dis, ok, genre je vois où il va et je vais aussi dans cette direction, donc ce serait vraiment cool d'essayer de bosser avec ce gars. Donc un jour, je tombe sur son Twitter, il avait laissé un mail et tout, j'envoie un mail et j'ai une réponse au bout de 6 mois. Il est en mode, ouais, c'est trop lourd et tout, machin, vas-y, bien, on se capte, tu vois. De là, on s'est capté avec Thury, la toute première fois qu'on s'est vu, il y avait Thury aussi qui était présent.
Mm-hmm.
On a parlé, etc. et tout, c'était très cool. Et de là, voilà, on a fait des sessions ensemble, tu vois. On a fait une première session, la toute première session qu'on a fait ensemble, c'était chez SHP.
Ok.
C'est là où on a fait, du coup, Pour des âmes solitaires 1.
Mm-hmm.
Donc, première fois qu'on se voit et qu'on bosse, on fait ce morceau.
Qui est une coproduction avec SHP.
Qui est une coproduction avec MNSD, SHP et moi-même, du coup. Donc, on a tout fait directement toute la journée. MNSD est arrivé avec la base de l'instru. On a ajouté chacun nos trucs, etc., notre patte et tout. Luigi était en train d'écrire. Ensuite, il a enregistré son couplet. SHP a fait un prémix. On a sorti le truc sur SoundCloud directement. Et ça, c'est le premier morceau que je sors avec, qu'on sort avec Luigi, quoi.
Prêt au perche, tu peux me chercher quelque part. Je respire, je reste enfermé. Viens hiberner si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences à me plaire. Je te veux pour passer l'hiver.
C'est quand même un bel hasard, en fait, que ce soit le premier morceau, parce que c'est un morceau qui va suivre Luigi pendant longtemps, qui va lui permettre, je pense, de toucher encore pas mal de personnes, mais finalement,
carrément.
Bien avant, finalement, Tristesse Business, même si je pense qu'ensuite, il a trouvé une deuxième vie aussi, et qui est, je crois, eu cette année un disque d'or, enfin, ce morceau.
Platine.
Platine,
ouais.
Même, tu vois. Donc,
bientôt diamant.
Tu vois, bah, ça, c'est fou, tu vois.
C'est complètement fou.
Comment ce morceau, qui était une première rencontre, finalement, a une vie sur le long terme, quoi.
Ouais, c'est incroyable, et surtout que moi, pour être très, très franc avec toi, je déteste tellement ce morceau. autant la partie 2, je l'aime beaucoup.
Ok.
Celle-ci, je l'aime pas. En fait, celle-ci, c'est typiquement un truc que si c'était un truc auquel j'avais pas participé, j'aurais dit mais c'est tellement naze, tu vois, genre ce qu'il raconte, il rappe bien, tu vois, mais je veux dire ce qu'il raconte, les mots qu'il utilise et tout, tu sais, cette espèce de vulgarité gratuite, un peu, c'est des trucs qui me parlent tellement pas, et je comprends pourquoi les gens aiment, hein, tu vois, je comprends pourquoi ce morceau il a un certain succès, mais moi c'est des trucs qui me parlent tellement pas, mec. Et du coup aujourd'hui, bah je suis content de voir que le morceau fonctionne, surtout que c'est le premier qu'on a fait ensemble, mais ouais, je J'aime pas ce morceau aussi. Mais sur scène, il fonctionne très bien.
Ouais.
Sur scène, j'aime beaucoup.
Ouais,
j'aime
pour avoir vu effectivement Luigi plusieurs fois sur scène, c'est un morceau puis qui est repris, bon, comme beaucoup de morceaux, qui est repris toute voix ouverte par le public. Ouais. Voilà. Mais celui-là, on sent qu'il y a un petit truc qui se passe aussi. Carrément. Je pense que c'est une porte d'entrée pour les premiers fans aussi et qu'il y a cette forme
c'est
d'attachement
ça.
Aussi.
En fait, c'est un morceau super important pour la carrière de Luigi. On peut vraiment pas nier ce truc-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, musicalement, je pense que c'est un des trucs les moins bien qu'on ait fait, pour être très sincère.
En même temps, c'est le moment où je pense que c'est un peu le moment où Luigi se réinvente aussi.
C'est exactement.
Et c'est le moment, en fait, où vous apprenez tous à travailler ensemble
exactement,
aussi.
Exactement,
voilà.
On apprend à se connaître en même temps.
Ouais,
c'est vraiment le départ, quoi, tu vois. Donc, c'était nécessaire de passer par là pour faire tout ce qu'on a fait après. Voilà, si aujourd'hui je dois avoir un jugement honnête sur ce morceau, je l'aime
bien.
Pas.
C'est une forme de lucidité aussi, de recul, de mettre son ego de côté sur son propre travail.
Bien
c'est bien. Et donc tu le disais, voilà, dans la foulée, il y a aussi ce Deuxième Solitaire partie 2 qui sort.
En retard, en retard. Plus elles sont fraîches, plus elles sont en retard. Je l'attends, je me recule. Je repense à ces bonnes formes en tenant ces pop-corns. J'allume mon repu, dépenser ce gros nu. Je l'attends, je caille. Je préfère les brunes, plus ou moins bronzées, plus ou moins foncées, de petite taille parce qu'elles ont des gros culs.
Pour le coup, ce piano, c'est Sage-Pique le fait.
Ok.
Sage-Pique qui le fait, qui me l'envoie. Moi, je construis autour un peu avec, tu sais, les passages un peu aériens, même les drums, etc. Tu vois. Moi, je pense que j'ai un peu pris aussi. J'ai beaucoup appris de Sage-Pique et de MNSD, tu vois. Quand j'ai commencé à faire de la musique avec eux, bon, déjà à la base, moi, quand j'écoute Marie-Jeanne, qui est fait par Sage-Pique et MNSD. Je suis en mode, ah ouais, c'est incroyable, en fait, il faut que je m'inspire de ça, tu vois. Donc, j'ai beaucoup appris de ces gars-là, tu vois, finalement. Donc, voilà.
2018, on parlait de DC's, mais 2018, c'est aussi la continuité de ce début de collaboration avec Luigi. Et c'est la sortie d'un morceau qui va préfigurer, justement, ce que va être Tristesse Business, c'est Néon Rouge, Belle Chanson. Comment naît ce morceau qui est différent du coup aussi de ce qui a été justement pour Deux Âmes Solitaires dans l'approche musicale?
Ouais, Néon Rouge, Belle Chanson, c'est un morceau que je fais chez moi comme je fais un peu tous mes morceaux, c'est-à-dire que je le construis pas en pensant qu'il y a un artiste qui va poser dessus, mais je le construis juste comme une boucle que je peux écouter des heures, tu vois. Moi, j'ai un indicateur qui trompe rarement, c'est que quand je construis une chanson, quand je crée une chanson, si j'arrive à l'écouter vraiment pendant très longtemps sans qu'elle me saoule,
c'est bon signe.
C'est bon signe.
Ouais.
Je le sens bien, c'est que ok, ça saoule pas, c'est agréable à écouter, ça, tu vois, ça arrache pas les oreilles. Donc j'avais cet indicateur là, et quand on commence en fait le processus d'album, on savait pas encore que c'était le processus de l'album, mais on commence à créer des morceaux, etc. et tout. J'envoie ce morceau là à Luigi. Et lui, il écrit le morceau de son côté, etc. Et tout. On n'est pas encore assez proche pour... tu sais, on ne se voit pas encore tout le temps. On n'est pas encore dans cette phase de « dès que tu crées, on se voit ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il fait le morceau de son côté. Il me l'envoie une fois qu'il l'a écrit et tout. Et de base, il n'y a pas la deuxième partie. La deuxième partie vient bien après. C'est une instru aussi pareille que j'avais faite de la même façon, c'est-à-dire juste une boucle que j'avais envie d'écouter longtemps. Et on colle les deux parties, finalement. Ça, c'est vraiment sur la fin de l'album qu'on le fait.
Quelque chose vraiment de réalisation, d'agencement de l'album.
Exactement. Au moment où on réalise réellement l'album et qu'on fait le track listing, etc., on se dit, OK, cette partie-là, on peut les emboîter, ça peut être cool, etc. Donc voilà, ça, c'est un truc qui se fait sur le long terme.
On a tout fait sous tes néons rouges. On a tout fait sous tes néons rouges. Ce serait dommage qu'on reste encore au lit. Paris est tellement joli aujourd'hui. Pourquoi pas le musée du Louvre?
Ce morceau, il a quelque chose de très feutré dans le son. Alors, je sais pas si c'est un Rhodes, par exemple, qu'on peut entendre, ou c'est quelque chose qui...
C'est
un Rhodes, donc... C'est vraiment des sonorités du coup qui sont très feutrées, presque soul. En tout cas, un son qui est chaud, même dans les choix de batterie que tu utilises aussi. C'est-à-dire qu'on on est en 2018, c'est l'explosion de plein de sonorités beaucoup plus trap en France. Toi, on
carrément.
Sent qu'il y a quelque chose de plus organique.
Ouais.
C'est quelque chose aussi... Tout à l'heure, on parlait des ambiances très aériennes à la Drake, à la Kanye West, mais Tu avais aussi envie de développer ça, justement. C'est quelque chose que tu souhaitais développer depuis longtemps, ce genre de sonorité qui te tenait à cœur, justement.
Je ne sais pas si ça me tenait à cœur. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai prémédité, mais je pense que c'est de la musique que j'ai beaucoup écoutée.
Okay.
Parmi tous les trucs que mon père écoutait quand j'étais petit, il y avait beaucoup de Tribe Called Quest. Donc, c'est très feutré de Tribe Called Quest. Il y avait beaucoup ces sonorités-là, tu vois, D'Angelo, Duele, tout ça et tout. Donc, j'ai grandi un peu avec ces couleurs très chaudes, très feutrées, etc. Donc, je pense que ça fait partie de ma sensibilité. Mm-hmm. Et c'est des trucs que je retranscris naturellement, tu vois. Et après, si je n'ai pas suivi la tendance, on va dire, de ce qui se faisait actuellement dans le paysage français et tout, c'est juste parce que j'étais moins bon que les autres, en fait. Mm-hmm. Moi, quand j'essayais de faire de la trappe, ça ne sonnait pas comme quand les gars faisaient de la trappe. Je n'arrivais pas, en fait. Ouais. Donc, à un moment donné, j'étais en mode, bon, c'est juste pas pour moi. Je vais juste faire autre chose, un truc qui me parle un peu plus, tu vois. Et, mais je kiffais la trappe, hein, tu vois. C'est que j'y arrivais pas, tu vois.
Oui, c'était pas, voilà, c'était pas un truc pour te démarquer en mode.
Ouais, non, c'était pas volontaire. Voilà. C'était juste, voilà, la trappe.
Travailler en fait, tes points forts, en fait.
C'est ça, exactement, exactement. Plutôt que d'essayer de pousser mes points faibles pour ressembler. Ouais. Les mecs le faisaient déjà tellement bien, en fait. J'allais rien apporter dans ça, tu vois. Donc voilà.
Et donc, je le disais, ce morceau Néo Rouge, belle chanson, il préfigure donc la sortie en 2019 de cet album Tristesse Business. Tu le disais au début, vous faisiez des morceaux sans savoir vraiment que ça pouvait aboutir sur un album.
Ouais.
À quel moment vous avez senti collectivement, mais sachant que toi, tu as aussi une grande part dans la production de morceaux de cet album, que vous commenciez à toucher du doigt quelque chose? Alors évidemment, Luigi, lui, il aurait sûrement une réponse à ça en tant qu'interprète. Et voilà. Mais à quel moment tu as senti que il y avait un truc sur l'identité musicale, la direction artistique et que vous commenciez à toucher du but de quelque chose? Il a fallu beaucoup de morceaux. Est-ce que c'est arrivé rapidement ou pas?
C'est arrivé quand même assez rapidement et c'est arrivé d'un aspect lyrical dans un premier temps. Comme Luigi le raconte souvent, etc. Lui, il bossait à l'hôpital à cette période et il écrivait beaucoup, beaucoup de choses dans son carnet. Et je pense que quand il a commencé à voir un script un peu global de ce qu'il avait envie de véhiculer et de raconter, c'est de là que c'est parti. Tu vois, on avait un groupe, il a créé un groupe avec du coup MNSD, Sage P et moi, où il nous a un peu fait un pitch du truc. Et à partir de là, on savait vers où on allait, qu'est-ce qu'il allait raconter, qu'est-ce qu'il voulait raconter. Et moi, musicalement, en fait, j'ai rien créé à partir de ce moment. Pour cet album, c'est-à-dire que tout était déjà créé. Moi, j'avais déjà toutes mes instrus de prête. Gisèle, c'est un morceau qui existe depuis avant que je rencontre Luigi. Néon Rouge aussi, d'ailleurs. Mm-hmm. Et tous les morceaux que je crée, que j'ai créé pour cet album, ont été faits avant, bien avant qu'on se rencontre, etc. Donc, c'est juste un concours de circonstances qui fait que...
C'est toi l'alignée.
Exactement.
Le fait que tu tombes sur les personnes qui, finalement, ont un peu une même vision que toi, musicalement, quoi.
C'est ça. Et du coup, tout ce qui s'est passé, c'est que voilà, ben, les instrus... En fait, c'est comme si j'avais fait ces instrus pour lui, sans savoir que c'était pour lui, quoi.
Tu ne vis que pour les caméras, les appareils photos. Tu ne vis que pour les miroirs, le regard des...
Quand on écoute des morceaux comme Gisèle, Système ou Remède, il y a une petite teinte, je dirais brésilienne, bossa nova à certains égards. Pareil, c'est des choses que tu avais déjà écoutées en étant plus jeune. C'est simplement des choses qui, sur le moment, t'ont inspiré parce que tu trouvais ça cool. Est-ce que je suis fou de voir des liens musicaux entre ces morceaux? Je sais pas. Est-ce que voilà, il y avait quelque chose chez toi, justement?
T'es pas fou du tout. Après, je fais beaucoup la musique au hasard.
Ouais.
Ça veut dire que quand je fais un morceau, je sais pas directement de quoi il découle.
Mm-hmm.
Je ne savais pas précisément ce que c'était la bossa au moment où je fais Gisèle. J'avais pas particulièrement d'inspiration bossa. Je peux même pas te citer d'artiste bossa. Mais en fait, pour être franc, ce qui se passe quand je fais Gisèle, c'est que ça part d'un morceau qui s'appelle Phil, de Kendrick, qui est dans DM.
Tout à fait.
Donc, tu vois, cette rythmique qui est une rythmique littéralement bossa, mais qui est juste accélérée pour le coup, c'est vraiment de ça que ça part en fait. Ça part de ce truc-là, tu vois. Et qui est plus lente, je crois.
C'est possible aussi.
Je sais plus si c'est plus lent ou plus rapide, mais en tout cas, c'est pas du tout le rythme. Le rythme. Auxquelles les musiques de bossa nova sont produites, mais c'est clairement un morceau de bossa en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je pars. En fait, quand je crée Gisèle, je pars de ces drums là. Tu vois, j'aime trop ce morceau, donc je pars de ces drums là, et juste, je le fais de façon à ce qu'aujourd'hui, on puisse même pas entendre le lien entre les deux morceaux, mais finalement, c'est littéralement les drums de Phil. Voilà, j'ai copié Kendrick.
Ça va, sur un motif rythmique, c'est pas du plagiat. Voilà, exactement, c'est une inspiration.
C'est une inspiration.
En tout cas, c'est vrai que sur cet album, on parlait de ces sonorités pardon, chaudes, feutrées, etc. Il y a vraiment cet aspect qui se dégage. Mm-hmm. Alors après, avec certaines nuances, je pense à des morceaux comme Vent d'hiver, avec ce côté un peu synth-funk, etc. Mm-hmm. Évidemment, un morceau comme Plus haut, où là, on revient à tes amours, justement, des trucs très atmosphériques à la Drake et à la Kanye West.
Absolument, Drake.
Et moi, ce qui m'a marqué, je me souviens encore à l'écoute de cet album quand il sort, c'est vraiment cette vision artistique que vous avez sans doute partagé, mais qui est aussi évidemment celle aussi de Luigi, puisque c'est lui qui sélectionne les prods, de comment ça sonne, quoi.
Ouais.
Et je pense que collectivement, peut-être vous avez été aussi attaché à ça, c'est-à-dire que ce soit singulier et que ça, surtout que ça corresponde à l'identité de Luigi, quoi.
Ouais. On s'est jamais trop posé la question, pour être honnête, sur les sonorités, sur comment ça sonnait. Je pense que c'est un truc dont on s'est rendu compte pour la première fois à la première écoute de l'album. Où on s'est dit, ok, en fait, quand tu écoutes l'album, tu vois, dans sa globalité, etc., tu ressens que c'est un petit vent frais, un truc. T'as pas eu l'habitude d'entendre ça récemment, tu vois.
Tout à fait.
Et c'est que à ce moment, en fait, que nous, on s'en rend compte. C'est pas du tout pendant la création du truc. Nous, on fait le truc, on a la tête dedans.
Ouais, bien sûr, les œillères, le tunnel, la zone.
Exactement, voilà, la zone. On n'a pas le recul encore, tu vois. Et c'est que quand l'album sort, qu'on fait la première écoute, qu'on a un peu de recul avec le retour des gens et tout, qu'on se rend compte de tout ça, en fait. À la base, on s'en rend pas compte du tout. Donc ouais.
Avec le recul, c'est quoi la production que tu préfères sur cet album ?
Nazaré, sans aucun doute.
Et j'ai dû quitter le radeau. J'ai dû abandonner le radeau. Je me suis mis tout ce monde à dos.
Pour moi, c'est le seul morceau qui pourrait être dans Saison 0, tu vois.
Je comprends.
Musicalement, c'est le seul morceau qui pourrait faire partie de cet album. J'ai l'impression qu'il pourrait sortir dans tous les albums de Luigi qui vont suivre, en fait. Tu vois, genre, je le colle à aucune époque. J'aime trop comment il chante dedans. J'aime énormément l'instru. Moi, c'est une des instrus dont je suis le plus fier, tu vois. Donc j'aime trop ce morceau. Vraiment, je crois que c'est le morceau qui vieillit le mieux de l'album.
Okay.
Tu vois, j'aime beaucoup System. Mm-hmm. Il commence un peu à me saouler, tu vois, parce que je l'ai trop entendu en concert. Ça fait partie des morceaux préférés des gens, tu
vois. Tout à fait, ouais.
Donc il commence un peu à me saouler. Gisèle, j'en peux plus. Mais Nazaré, vu qu'il a pas... Je sais pas si c'est dû à son non-succès, si on peut dire ça comme ça, tu vois. C'est pas un morceau populaire de Luigi.
C'est pas un morceau avec un refrain qui est porté par un refrain,
exactement,
par exemple,
il a pas une construction de toute façon de tu me diras System non plus, finalement il a pas une construction de refrain, truc
ouais,
et
ouais,
tout.
C'est vrai,
mais il a beaucoup d'événements dans System, il y a beaucoup de moments marquants
tout
dans System, mais Nazaré, c'est juste très, je sais pas, je trouve ça très libérateur, et je trouve que par rapport aux musiques que j'ai l'habitude de produire, il est pas triste ni mélancolique, il a quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus good vibes, je déteste ce terme, mais il a un truc un peu plus...
Et je comprends, en plus, comme c'est ce fameux, comme c'est le moment dans l'album, on entend des bruits d'eau.
Exactement.
Il y a effectivement quelque chose de plus côtier, je sais pas comment le dire. Enfin, t'as vraiment l'impression tu flottes quand t'écoutes ce morceau-là.
C'est ça. Ouais. Moi, je l'écoute parfois quand je vais en vacances et tout, et il me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce morceau.
Bah écoute, enfin, je vais parler en tant qu'auditeur, mais c'est vrai que maintenant, quand je suis en vacances, quand je suis en détente et que je suis en train, je sais pas, de plus profiter justement d'être dans l'eau, c'est le genre de mélodie qui peut me revenir en tête parfois, justement, celle de
Nazaré.
Donc tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment un peu de flottaison, de plénitude qui se dégage bien de ce morceau-là, quoi.
Incroyable.
Un morceau qui est moins connu et qui sort au moment de la promo, je sais plus si c'est avant ou après, un truc que tu produis, en tout cas c'est crédité à ton nom, c'est son freestyle pour Red Bull, Sac à main. J'aimerais bien qu'on parle de ce morceau parce qu'il est très étonnant dans ta discographie, justement. Qui est un morceau très rap en plus, pour le coup, parce qu'il y en a un truc très rap.
Carrément. En gros, si tu veux, pendant une période, je faisais beaucoup de musique à l'image pour des publicités Courir, Adidas, Reebok, tout ça. Avec Johan, justement, c'est lui qui me trouvait un peu ces jobs-là. Ça me permettait de faire un peu d'argent sur le côté, quoi. Et la DA de ces trucs-là, c'était souvent la même chose. C'était souvent, on veut une instru un peu hip-hop, on me donnait des références, on me donnait un peu de Nas, on me donnait un peu de trucs et tout. J'étais en mode, putain, moi, j'aime énormément cette musique-là, mais je ne la fais pas du tout, mm-hmm. tu vois. Et c'était un peu une sorte de challenge pour moi. Et du coup, l'instru de Sac à main, de base, a été faite pour une de ces publicités-là.
OK.
Et,
pour capturer une sorte de mood, d'étiquette particulière d'un son, quoi.
Exactement. Ouais. Et du coup, ouais, moi, j'aime beaucoup ce freestyle, en plus. J'aime bien ce morceau. C'est vrai que je l'avais complètement oublié. Tu viens de ressortir un truc.
Mais... Bah ouais, parce que finalement, c'est un morceau qui est resté, j'ai envie de dire, un peu circonscrit à ce truc de freestyle et qu'il n'a pas eu de vie après, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais. Et ouais, voilà. Moi, c'est une musique que j'aime beaucoup. Tu vois, par exemple, la façon dont s'est produit Benjamin Epps, j'aurais tellement aimé faire des trucs comme ça. Mm-hmm. Je trouve ça trop lourd. Mais ouais, j'ai l'impression que j'arrive pas.
Star One.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One shot.
Ouais, voilà, ah, c'est ouais. ça.
C'est écoute,
ça.
C'est un one shot que je trouve assez réussi parce qu'il y a ce truc ça. Très épuré, ouais. très efficace, mm-hmm. avec ton style à toi, donc mm-hmm. C'est plutôt cool.
Je brasse plus que son père, mais cette pute s'agrippe à son sac, sans blague. Tu veux me signer, tu mets moins de 100 plaques. On me dit Luigi, quand est-ce que tu passes le cap? Je fais du bif sur des séries que je regarde, app et je fais croquer ça.
2020, on arrive sur une période troublée pour tout le monde, puisque c'est le confinement, c'est le Covid, etc. C'était pas une période très drôle. Mais c'est aussi une période pendant laquelle tu sors des musiques à ton nom.
Ouais.
Plusieurs singles, en fait, qui sortent sur les plateformes de streaming, des morceaux instrumentaux, mm-hmm. instrumentaux d'ailleurs. Mm. Quand est-ce qu'ils sont nés, ces morceaux, et de quelle envie ils sont nés?
En gros, si tu veux, j'ai eu un crack avec mon ordi.
OK.
Parce que j'avais un iMac. J'allais au studio à Paris donc, pour faire des sessions avec This Is avec cet iMac. Donc, je le trimballais. Donc, trimballer un iMac, c'est pas bon. Avec le métro, les secousses, tout ça et tout, le mouvement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le disque dur interne s'est détaché.
Aïe.
Et je l'ai emmené chez quelqu'un pour réparer et tout. Le mec répare le truc. Il me dit, OK, c'est bon, c'est réparé et tout. Il me rend mon ordi, je l'allume. Plus rien.
Ah.
Plus à rien, mec. Genre, j'ai perdu toutes mes instruments et tout. Aïe. Et vu que j'avais pas ce recul-là, j'avais pas fait de sauvegarde dans les disques durs et tout, j'étais pas assez vigilant en fait.
Oui, ça c'est le fruit de l'expérience souvent.
Exactement.
Ça.
Ouais. Et du coup, plus rien. Et en fait, j'avais juste des versions MP3 des morceaux que j'avais produits dans mes mails parce que je les envoyais des fois ou je me les envoyais à moi-même pour les écouter, etc. Donc j'avais des versions un peu à droite, à gauche des morceaux. Et vu que c'était des morceaux que je ne pouvais pas reproduire parce que je n'arrive pas à reproduire un morceau, pour moi c'est pas naturel, c'est impossible. Tout ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je les aime trop ces morceaux, je peux pas les laisser mourir en fait, tu vois. Faut que j'en fasse quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à en parler à Mo.
Donc Mo, pour les gens qui n'ignoraient, c'est le boss de Foon
Palace. Voilà, le boss de Foon Palace, le patron du label, comme on dit. Donc j'ai commencé à en parler avec lui, avec Mehdi aussi, qui gère l'image globalement de Foon Palace, pour sortir les morceaux en fait, en me disant, bon, les morceaux sonnent pas trop mal, ok, c'est des MP3 et tout, il n'y a pas de mix, il n'y a pas de master, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est pas trop dégueu. Bon, bah en fait, venez, on les sort. Et puis ceux à qui ça parlera, ils écouteront. Et voilà, tu vois. Donc, c'est tout simplement ça qui s'est passé, en fait. C'est que des trucs que j'ai produits il y a un moment, dont j'avais plus les pistes. Et ça me tenait trop à cœur, en fait, que ces morceaux puissent exister un jour. Du coup, je les ai sortis sur les plateformes.
Pourquoi il tenait à cœur? Parce qu'il capturait des moods dans lesquels tu étais au moment où tu les avais faits. Et voilà, ça disait quelque chose de toi, quoi.
Ouais, il cristallisait vraiment beaucoup d'émotions que j'ai pu ressentir, de moments que j'ai pu traverser, etc. Donc, quoi qu'il arrive, je ne me serais jamais séparé de ces morceaux, je les aurais jamais jetés. Mmh. Et pour moi, c'était le meilleur moyen d'en faire quelque chose d'utile, quoi, tu vois. De les sortir, au moins ils existent à tout jamais. Et puis, voilà, ceux qui veulent les écouter, les écoutent. Moi, je les écoute parfois aussi, ça me fait du bien, tu vois. Donc voilà, j'ai un peu de regret de ne pas avoir pu les mixer, de les pousser,
ouais, pousser plus haut, ouais.
Au maximum, mais je suis quand même content de ces morceaux, donc voilà.
Est-ce que c'est pas plus mal finalement aussi parfois de pas trop sophistiquer des instants, tu vois?
Ouais, je suis d'accord avec toi, Ouais, des fois ça suffit en fait. Des fois ça suffit. Et je pense que c'est aussi peut-être un peu mon problème. Moi, je veux toujours pousser le truc un peu loin, un truc, réfléchir, le détail, etc. Mais des fois, voilà, l'œuvre telle qu'elle est, elle se suffit, quoi.
Ça me fait penser à des beat tapes comme la plus connue, c'est un truc comme Donuts de Dilla, tu vois, okay, par exemple, ouais. Où tu as finalement des espèces d'ébauches d'instru, des trucs qu'il a laissé assez bruts finalement.
Ouais, ouais.
Et en fait, des fois, ça suffit. Et tu vois, moi, quand j'écoute justement, en plus, toutes les intentions musicales que tu as mis dans ces morceaux, il y a des trucs qui sont parfois très jazz, et des trucs un morceau comme le remix de No Games, par exemple, où c'est une espèce d'hybride entre des choses afro-caribéennes, la scène SoundCloud, je trouve, de cette époque-là, tu vois. Un truc comme Radar, où on sent des trucs un peu funk, années 80. Enfin, tu vois, il y a plein de directions musicales.
Ouais, carrément.
Et je trouve que ce côté, justement, brut, note d'intention, voilà ce que j'aime, voilà quel mood ça a capturé. Parfois, je pense que ça peut suffire aussi.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, je regrette pas du tout d'avoir sorti ces morceaux, je suis très content. Et puis, j'ai l'impression que les gens sont très attachés à ces morceaux aussi. J'ai reçu des messages, mec, franchement, auxquels je m'attendais tellement pas. Mais ça m'a fait tellement plaisir, tu vois. Et des gens qui me disent, oui, ta musique nous parle alors qu'il n'y a pas de paroles et tout, machin, des trucs de ouf, tu vois. Et je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment l'intention de ces chansons. Mais je pensais que j'étais le seul à pouvoir percevoir ça parce que ça me concerne, tu vois, c'est un truc de très personnel. Et le fait que des gens puissent se rendre compte de ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Le fait que cette musique puisse parler à des gens, je trouve ça incroyable.
Ce serait lequel ton préféré?
Franchement, peut-être Addis Abeba.
Ouais.
J'aime beaucoup Addis Abeba, il m'apaise beaucoup. Et ouais, je pense que c'est celui que je peux le plus écouter, on va dire. Tu vois, celui qui me saoule le moins. Tu vois, par exemple, Radar, je l'aime beaucoup, mais des fois, il me fait chier.
Okay.
Un parapluie pour deux, je l'aime beaucoup. Pareil, je l'aime beaucoup. Genre, je pourrais l'écouter aussi beaucoup. Mais ouais, Addis Abeba, je pense, c'est celui que je préfère.
On était donc sur 2020, fin d'année 2020, je crois que c'était à l'automne. Luigi sort Bosco Lo Exedra, sur lequel tu travailles encore, sur un certain nombre de morceaux. Comment ça a été? Est-ce que, contrairement à Tristesse Business, où il n'y avait pas d'intention première, il y avait juste eu le fait que vous travaillez ensemble et finalement, ça a matché. Est-ce que là, il y avait plus de réflexion musicale? Est-ce que vous êtes dit, allons dans cette direction? Pas nécessairement, d'ailleurs.
Franchement, tout ce que je sais, c'est qu'on voulait faire de la musique. On voulait sortir un projet, en fait.
Okay.
Et on était en mode, mec, viens, on se voit très souvent. Il venait à Metz, j'allais à Paris, on se voyait vraiment souvent. On est allé à Cannes, on a fait plein de, on a niqué un peu la trésorerie. Désolé, mot. Mais voilà, en gros, on voulait juste faire de la musique et on n'avait pas envie de s'endormir sur Tristesse Business et fallait qu'on sorte quelque chose, en fait, tout simplement. Donc, on a commencé par Mauvaise Nouvelle, c'est le premier morceau qu'on fait. De Mauvaises Nouvelles a découlé Le Rouge, puis ensuite
Sirène et Manège.
Sirène, c'est le dernier morceau qu'on a réussi à rentrer parce qu'il était très très compliqué, parce qu'il était vraiment à ça d'être nul. Genre,
pourquoi?
En fait, tout est dans l'intention. Tu sais, c'est des détails, mais sur lesquels on s'est vraiment pris la tête. Moi, il a dû me détester à cette période parce que je l'ai fait reposer le couplet de Sirène 50 fois, pour pas dire de conneries. C'était horrible parce que vraiment, à ça d'être pas bon. Tu vois, à ça que l'intention dans sa voix ne soit pas bonne, à ça que, en fait, la tonalité du morceau ne sonne. C'était vraiment que du détail, tu vois. Et je crois, En tout cas, quand je le réécoute aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trop trompé. Mmh. Et je suis vraiment satisfait de ça parce que j'avais peur de regretter ce morceau. Finalement, je ne le regrette pas tant que ça.
Jolie, jolie team à la nouaille. J'adore flâner dans les rues de Paris, même si j'aimerais m'éloigner de la capitale. J'en peux plus, du va piano de porte, merci.
Est-ce que c'est pas un EP sur lequel tu prends l'assurance en tant que réalisateur aussi?
Complètement.
Parce que tu vois, là, tu disais, tu fais reposer plusieurs fois, voilà.
Ouais, c'est complètement le moment où, en fait, déjà, on se retrouve, on bosse vraiment ce truc que tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a une instru que je n'ai pas composée, qui a été faite par Snowdiz. Bonjour à Snowdiz. Mais il n'a pas bossé avec nous sur le projet, tu vois. C'est une instru qu'il a envoyé. Il avait envoyé plusieurs instrus à Luigi et il a choisi celle-ci pour clôturer le projet. Mais à côté de ça, on a vraiment bossé ce truc-là à deux, avec Salah, du coup, qui nous enregistrait beaucoup, enfin, qui enregistrait beaucoup Luigi, etc. Mais on a fait ce truc-là à deux, on a réfléchi à deux, etc. On a choisi les morceaux, on a choisi les... C'est vraiment un travail en binôme, quoi, pour le coup, sur ce projet. Et c'est la première fois que je pense que je m'affirme vraiment en tant que réalisateur, comme tu dis.
Et du coup, là où Luigi, il était peut-être très... Il doit toujours l'être un petit peu, j'imagine, dans le fait d'avoir peut-être le dernier mot sur Tristesse Vinesse, sur les instruments qu'il choisissait. Est-ce qu'il y a aussi peut-être plus un truc d'échange où tu donnes plus d'intention aussi sur « Tiens, est-ce que tu penses que tel morceau, ça pourrait être intéressant d'aller sur cette direction-là » Est-ce qu'il y a aussi, tu vois, cette forme de dialogue artistique, tu vois, qui peut,
bien sûr,
se développer aussi, quoi.
Bien sûr. Moi, j'ai un peu un mauvais côté. Je suis un peu un dictateur. J'ai un peu un truc de « Non, mec, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Tu vois. Et je sais que lui, on s'est embrouillé tellement de fois pour ça, tu vois, parce que j'ai pas l'art et la manière de dire les choses. Et
ça s'apprend.
J'ai l'impression de pas vouloir apprendre. Mais tu vois, j'ai un peu ce truc où, et c'était beaucoup le cas pour la saison 0, tu vois, mais j'ai un peu ce truc de non, ça, tu peux pas faire ça, mec. C'est pas possible, c'est pas bien, c'est nul, tu vois. Et j'ai un peu ce truc où je sais pas dire les choses j'ai pas toujours conscience qu'en fait je suis en train de parler à un artiste, tu vois ce que je veux dire, un artiste qui en plus de ça est plus âgé que moi, tu vois, que je considère aussi comme mon grand reuf, tu vois. Donc j'ai ce truc des fois où je viens et je fais un peu le mec en mode non mais ça tu peux pas faire, gros, c'est impossible, jamais je te laisse sortir ça, tu vois. Donc mais je regrette pas, finalement je pense que c'est pour la bonne cause, tu vois,
d'être un peu obtus parfois, ça paye de ton côté.
Je pense que ça paye, ouais. Je pense.
Même exercice que je t'ai posé pour les disques précédents. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu aimes, une production justement qui est sur l'intention qu'il y avait, sur la réalisation, qui incarne quelque chose pour cette EP Boscolo, etc.
Le Rouge.
Ouais.
Ah, j'aime tellement Le Rouge.
Le morceau, ouais, peut-être le plus R&B, le plus doux du morceau.
Ouais. Et puis je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de Luigi et de sa carrière. Pareil, j'aime beaucoup quand il pose. Pareil, ça, on l'a posé tellement de fois. Parce que des petites nuances, des fausses notes, des fois, trucs et tout, ça va, tu vois. Donc, on l'a reposé plein de fois et tout. Et il s'est fait en one shot, ce morceau. C'est-à-dire qu'on était en studio, on vient de finir Mauvaise Nouvelle. Et à la fin de Mauvaise Nouvelle, tu sais, il y a le petit solo de piano que je fais. Et de ce solo de piano, en fait, l'idée, c'était de partir sur le second morceau. On voulait vraiment faire quelque chose de très cohérent, qui se suivait, etc. Et donc à partir de ces accords-là, moi je crée du coup l'instru de Le Rouge et tout. Lui dit parfumé, il revient, il entend l'instru, il est en mode ok, putain j'ai capté et tout. Et là il commence à écrire le morceau, à pouvoir réfléchir, une top line, comment il va poser et tout. Et ouais, j'aime beaucoup l'ambiance de ce morceau. J'aime trop ce morceau aussi. J'aime vraiment beaucoup ce morceau.
Est-ce que tu te souviens de nous? On dansait au milieu du rouge. Quand on paraissait si loin de tout, même au milieu des fous.
Donc là, on était fin 2020, 2021. Tu continues à sortir un peu de morceaux instrumentaux. Je pense à un morceau comme Irène, par exemple. Et t'apparais également sur le disque d'un autre membre de Foon Palace, qui est Thury. Avec le morceau Tiroir Bleu, qui vient, le jour où on enregistre, qui vient d'avoir le prix Joséphine. Donc,
félicitations.
On le salue et on le félicite, exactement. Et donc, pour son premier disque, tu as ce morceau qui s'appelle Tiroir Bleu, qui est un morceau qui est, pour le coup, beaucoup plus rap aussi que ce qu'on a l'habitude d'entendre
c'est vrai,
chez toi.
C'est vrai.
Comment naît ce morceau?
En vrai, ce morceau, c'est... Bon, déjà, c'est un peu une vengeance de la trappe, déjà. J'ai mal vécu le fait de ne pas réussir à faire des instrus trap et tout, machin. Et donc, j'étais dans ma phase où, OK, j'ai fait les trucs que je kiffe et tout, machin. Bon, maintenant, il faut que je réussisse à faire de la trappe, mec, je peux pas, tu vois. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens, c'est pas de la trap. En vrai, c'est même pas vraiment de la trap, tu vois. C'est juste les sonorités trap et tout. Mais du coup, c'est un peu ça, en fait, l'intention. C'est, ouais, moi aussi, je veux faire des sons qui bounce, tout ça et tout, truc, machin. Donc, c'est ça l'intention de base quand moi, je crée l'instru de ce morceau. Et en fait, j'envoie les trois instrus littéralement à Turi, sans penser qu'il peut... Déjà, c'était même pas pour qu'il pose dessus. C'était juste, on échangeait et tout. Tiens, j'ai fait ça, écoute et tout. Il me dit, ok, j'ai capté. Je sais pas, deux, trois semaines après, il me fait venir à Paris carrément pour me faire écouter le morceau. Il me dit, ouais, truc, j'ai fait le morceau et tout, faut que tu viennes écouter. Donc, je vais à Paris et tout ça, machin, j'arrive. Quand j'arrive, il me dit, non, je rigole, j'ai pas fait le morceau. Donc, j'étais très déçu, c'était une blague, pas très drôle de sa part. Au final, on va au studio et tout, machin, on se pose. Et on écoute, Bleu Gospel. En tout cas, une bonne partie des morceaux de Bleu Gospel, c'était pas encore fini. Et en dernier, il me met le morceau. Donc, je reconnais l'instru dès le départ, je suis en mode, ok. Et là, j'écoute le morceau, je vois qu'il a fait un triple morceau, quoi. Et je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud. Et je suis un peu même bouleversé à la fin parce que j'entends des choses que j'ignorais complètement, tu vois, sur sa vie, etc. Et je suis en mode, waouh. À la fin du morceau, à la fin de l'écoute, je suis en mode, waouh, c'est incroyable. Il y avait Mo qui était là, il y avait Luigi qui était là. Et je suis en mode, mec, c'est incroyable, en fait, tu vois. C'est incroyable. Jamais je pensais que tu utiliserais ces morceaux et encore moins de cette façon. Donc, j'étais fasciné.
T'as dit t'es conne à la maison, mais maman lui redonne une chance. J'ai 8 ans, maman peine à me faire comprendre qu'il n'est pas méchant. Elle crie qu'elle sait qui la débute, mais des buts, c'est quoi, maman? T'as dit me réveille, il est torse nu, ça bouche en l'essence.
Il t'a fait une Duckworth.
Exactement, c'est exactement
donc,
ça.
Pour ceux qui ignoraient, Duckworth, c'est le dernier morceau de l'album Damn de Kendrick Lamar. Exact. Où il a pris trois instrumentaux de Nine Founder, grand producteur américain. Ouais. Et en fait, c'est exactement la même chose. Nine Founder ne savait pas que les trois instrus, en fait, allaient être sélectionnés. En fait, il le savait pas. Il l'a appris en écoutant l'album. Il fait, mais t'as pris mes trois instrus. Donc, il t'a fait la même chose, quoi.
Incroyable. Ouais, je l'ignorais complètement. Je l'ai découvert en écoutant et j'étais très, très content parce que, il a honoré le truc, quoi. Donc, très content.
Moi, j'ai le souvenir d'entendre ce morceau pour la première fois. Je crois que c'est à une maroquinerie de Luigi. Donc, qui était fin 2019 ou quelque chose dans le genre, et Turi était en première partie, et je me souviens que ça a pris tout le monde à contre-pied total ce morceau, parce que c'est un morceau effectivement qui est très personnel, qui est même très brutal,
et il n'était pas sorti en plus.
Et il n'était pas sorti exactement, et je me souviens que tout le monde était soit complètement pris au dépourvu, soit, mais qu'est-ce que c'est que ce morceau je me souviens que j'avais même trouvé ça presque courageux de faire un morceau comme ça pour la première fois en public, dans une première partie de Luigi après Tristesse Business, tu vois.
Carrément.
Donc voilà.
Carrément.
Je trouvais ça audacieux, quoi.
Je suis d'accord.
2022, tu sors un EP qui est très beau, je tiens à le dire, mais je crois que je te l'avais dit au moment où c'était sorti.
Merci beaucoup.
Ça s'appelle J'espère que tu vas bien. Qui est un peu dans la continuité de tes explorations musicales, mais peut-être avec encore plus d'intention de faire quelque chose justement de cohérent, qui raconte quelque chose musicalement, puisque c'est de la musique instrumentale. Donc avec trois morceaux, La Cible, La Flèche et L'Archer. Comment naît cette idée de faire ce disque-là? C'est des expérimentations, c'est une intention, c'est quoi?
En fait, je tournais un peu en rond. On n'avançait pas trop sur l'album avec Luigi, mais j'avais besoin, moi, de créer, j'avais besoin de faire des choses et d'exister musicalement, tu vois, musicalement parlant. Et du coup, je commence, en fait, je me pose sur mon ordi, je recommence à créer de la musique presque tous les jours, chose que j'avais perdu l'habitude de faire. Et je fais le piano, donc de La Cible, du coup. Je commence ce piano-là et j'aime beaucoup la texture du piano et tout. Je trouve ça sympa et je suis en mode, c'est mignon, tu vois. C'est mignon, j'aimerais bien le sortir, tu vois. C'est ça que je me dis au début. Je regarde un peu, parce que quand je produis, des fois, je regarde un peu des peintures, des trucs, des images qui m'inspirent et tout.
Tout à l'heure, tu parlais de voyage aussi, par exemple, au moment de Bosco, etc. Donc, ça peut aussi inspirer.
Carrément. Voilà. Carrément. Et du coup, voilà, je fais ce piano. Et de ce piano, je me dis, bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que vas-y, je vais faire j'ai oublié comment ça s'appelle, tu sais, les tableaux en trois parties là.
Les triptyques.
Les triptyques, exactement. Je vais faire un triptyque en chanson, en fait, en musique, quoi. Je me dis, il faut que je fasse, ça c'est la première émotion, à quoi ça me fait penser. Au début, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Et quand je fais ça, je me dis, ok, à quoi je réfléchis, à quoi ça me fait penser. Est-ce que c'est triste, est-ce que c'est mélancolique, est-ce que c'est doux, romantique, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et ça me fait penser, quand j'y réfléchis, ça me fait penser au début d'une relation, tu vois. Tu sais, ce truc un peu. Tu vois, le côté où on se tourne un peu autour, on est c'est que les bons côtés, ouais. Tu vois, c'est que les bons côtés, on s'entend bien, on commence à découvrir des points communs, donc c'est très doux comme moment, et donc c'est à ça que ça me fait penser. Et la fin du morceau, comme elle est créée, donc le dernier accord que j'utilise, laisse juste présager quelque chose de, d'un peu plus dramatique, mm-hmm. si on peut dire ça comme ça. Et donc de là, je cherche un peu comme, de la même façon que Boscolo, etc. Je cherche à juste faire une liaison, en gros, si tu veux, entre les morceaux. Et donc je cherche, je procède toujours par les accords dans un premier temps, parce que c'est ça qui donne l'émotion du morceau, bien littéralement. Sûr. Et donc je me dis, ok, donc ça c'était doux. Qu'est-ce que je peux faire ? C'était romantique. Qu'est-ce que je peux faire pour suivre ce truc et casser justement ce romantisme-là, tu vois ? Donc, je trouve l'accord, du coup, de La Flèche, c'est ça ?
Mm-hmm, La Flèche, oui.
Si t'as les trucs,
tout à fait,
tu diras mieux que moi. Non, t'inquiète. Et donc, je trouve l'accord de La Flèche. Je me dis, OK, ça, c'est, on est dans quelque chose d'un peu plus problématique.
Oui, il y a plus de gravité dans la mélodie.
Exactement, il y a un peu plus de tension. Voilà. Le rythme est plus rapide. Mm-hmm. Il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe de négatif, si on peut dire ça comme ça. Et puis, le dernier morceau, il fallait quand même que ça finisse un peu bien, si on peut dire ça comme ça. Donc j'avais envie d'aller vers la paix, vers l'acceptation de la fin d'un truc. Donc voilà comment ça s'est créé, en fait,
okay.
Tout simplement.
C'est vraiment, encore une fois, capturer un mood, une idée.
C'est ça. Et ouais. Puis, c'est basé littéralement sur des relations que j'ai pu vivre, parce que c'est littéralement quelque chose que j'ai traversé, tu vois, qu'on a tous traversé, je pense.
Bien
et
sûr.
C'est pour ça que, même s'ils sont peu nombreux, les gens qui ont écouté ce projet se reconnaissent dedans. Et ça me fait très plaisir. Donc, voilà.
J'ai l'impression que tu prends encore plus en assurance en tant que musicien. C'est-à-dire que c'est même parfois... Je pense à un morceau comme La Flèche, complexe, tu vois, rythmiquement, par exemple. Y a du piano, il y a de la guitare, il y a des percussions. Je ne sais pas si c'est des choses que toi, tu joues, c'est des choses sur lesquelles tu arrives à trouver via ton logiciel, mais j'ai l'impression qu'en tant que musicien, ça te permet aussi de prendre confiance et de t'affirmer, quoi.
Ouais. En fait, je réfléchis toujours à la musique comme s'il y avait des musiciens avec moi. Donc quand je fais la batterie, quand je fais la guitare, les trucs, les instruments que j'utilise, donc c'est que des VST, tu vois, que je joue au clavier, mais je l'imagine toujours comme s'il y avait littéralement des musiciens qui jouaient avec moi, donc pour donner ce côté vivant, malgré que ce soit de la musique assistée par ordinateur.
Tout à fait.
Et je trouve ça très important, et c'est un peu mon combat, parce que vu que je ne suis pas musicien...
au sens classique du terme,
J'ai envie que ma musique sonne telle qu'elle. Tu vois, et c'est un truc sur lequel je me prends beaucoup la tête, le choix des instruments, le son, la tonalité des drums, des percussions, etc. C'est un truc sur lequel je me casse le plus la tête, et c'est pour ça que je fais pas beaucoup de musique et que je suis peu productif, parce que ça me fait un peu chier. C'est un processus qui est trop important dans ma musique, mais ça, c'est tellement long, mec, de choisir le bon pied, de choisir la bonne hi-hat, etc. C'est tellement long. Des fois, je passe littéralement de minuit à 6h du matin juste pour trouver les instruments que je vais utiliser pour faire la musique le lendemain, tu vois. Donc ouais, c'est un truc sur lequel je me prends beaucoup la tête.
Tu disais tout à l'heure que cette EP, j'espère que tu vas bien, sort à un moment donné où vous avez du mal à avancer sur l'album de Luigi.
Ouais.
Parlons-en, puisque c'est ta plus grande actualité, la plus récente en tout cas. C'est la sortie de l'album Saison 0, ce fameux album en question de Luigi. Quand est-ce que vous commencez à travailler dessus et par quelles étapes vous êtes passé justement pour arriver à ça ? Peut-être avec ces périodes de doutes et de difficultés dont tu parlais.
Ouais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'a pas commencé cet album au Brésil.
On a vu des images de Luigi qui faisait des stories au moment où il était au Brésil, etc.
C'est ça. Donc, on n'a pas commencé cet album au Brésil. On l'a commencé directement après la sortie de saison 1. On est allé à la campagne. Il y avait Dino, il y avait Sashpi qui est passé aussi. Il y avait Steven Norell, du coup... le réalisateur qui après nous a permis de faire les épisodes de Palace Mafia. Donc on a commencé cet album donc littéralement en 2019. On a commencé à créer Reste en vie par exemple a été littéralement créé à cette période-là.
Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est peut-être celui dont les sonorités se rapprochent le plus.
Exactement.
De ce que vous disiez à cette époque.
C'est un morceau qui aurait pu être peut-être pas lyricalement parce que je pense que ça a nécessité un peu de recul de sa part,
mais d'accord.
En tout cas musicalement et même la façon dont il utilise sa voix et dans la façon dont il pose, c'est un morceau qui aurait largement pu être dans Tristesse Business saison 1 et c'est pour ça je pense d'ailleurs Je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est peut-être le morceau qui va le plus vite vieillir de cet album-là, de Saison 0,
okay.
Je pense. Musicalement, en tout cas, c'est mon avis. Mais du coup, on commence cet album en 2019. Ça prend beaucoup de temps parce que du coup, tu as le succès inattendu, si je peux dire ça comme ça, de Saison 1, qui prend beaucoup de temps aussi. Puis après, tu as la tournée qui arrive. Luigi vit ses premières heures, ses premiers moments de succès, de gloire, de reconnaissance, etc. Donc, il rentre dans une nouvelle phase qui, je pense, le perturbe un peu, le déstabilise un peu. C'est une nouvelle vie, tu vois, qui commence doucement. Et je pense que tous ces paramètres-là ont fait que la réflexion pour un nouvel album allait être beaucoup plus longue. Lui, il était indécis. Il ne savait pas où est-ce qu'il voulait aller. Pourtant, il avait un thème, il savait de quoi il voulait parler, mais je pense qu'il avait besoin de temps pour mûrir cette thématique-là. Et musicalement, par contre, tout était presque prêt, tu vois. Moi, j'avais carrément un track listing parce que j'avais envie de le rassurer et de lui dire, écoute, mec, en vrai, ça, c'est chaud, faut qu'on aille dans cette direction, t'inquiète pas, tu vois. Et donc, il y avait un track listing avec les instrus, on avait sélectionné des trucs et tout, c'était fluide, musicalement, ça se suivait bien, etc. Et ça a pris beaucoup de temps. Et finalement, on est revenu sur beaucoup de décisions, on a changé beaucoup de choses et tout. Mais on est vraiment rentré dans le processus de l'album, si tu veux. On a vraiment compris qu'on allait faire cet album-là cette année, en vrai, au début de l'année, tu vois.
Il y a eu quelque chose en particulier ou c'est simplement le fait, à force d'écrémer, de choisir
Je pense qu'à un moment donné, c'est juste le temps qui a fait ça. Tu vois, il n'y a pas eu un déclic particulier, ni musical, ni quoi que ce soit. Je pense que c'est juste le temps où on s'est dit, OK, bon, en fait, là, ça va faire 4 ans. Il faut faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire quelque chose, on avait envie de sortir de la musique, on avait envie de tout ça, et puis t'avais une pression quand même, parce que Saison 1 était bien accueillie.
Il a continué à vivre.
Il continue à vivre encore, et c'est ça qui est dingue, c'est que voilà, c'est un album qui dure dans le temps, et t'as forcément cette pression de réussir à refaire un album qui va durer dans le temps, c'est même pas de te dépasser, mais juste de faire quelque chose. Tu peux pas faire, en fait... la même chose.
Bien sûr.
Tu peux pas, là, tu tombes dans un... On aurait pu choisir cette option et la facilité et refaire un Saison 1 bis, mais c'est pas intéressant, tu vois. Ça nous enterre direct, ça nous bloque dans quelque chose.
Bien sûr.
Il fallait qu'on trouve plus intéressant à faire. Donc, voilà.
Si on parle vraiment de musique sur cet album, puisque tu produis quasiment l'intégralité, il y a quelques morceaux que tu ne produis pas. C'est la teinte musicale de cet album qui est différente de celle de Tristesse Business. Elle est née de quoi ? Est-ce que c'est toi qui t'affirmes encore une fois comme musicien, comme réalisateur ? Est-ce que ça naît aussi d'échanges avec Luigi ? Parce que voilà, on est sur quelque chose qui s'éloigne de plus en plus, ça m'embête de le dire comme ça, mais du rap tel que sont les formats rap aujourd'hui à notre époque. Il y a des choses... j'arrive même pas à coller une étiquette dessus tellement il y a beaucoup d'hybridation, mais il y a des choses, ça tire vers la chanson, la pop... tel qu'on l'entend, la pop au sens presque noble du terme, la pop anglaise ou ce genre de choses, tu vois, avec des grands pianos, etc. Voilà. C'est né de quoi, finalement, cette couleur musicale de cet album ?
Franchement, encore une fois, je saurais pas te l'expliquer parce que, pour le coup, je fais vraiment la musique au hasard.
Ouais.
Donc
là, il n'y a toujours pas ce truc surintellectualisé dans ta musique, aujourd'hui, même sur un album comme celui-là.
Ouais, du tout. Je sais que... Et puis, moi, je le fais aussi pour d'autres artistes. Et je me rappelle d'ailleurs d'une interview de Childish qui disait qu'il fallait que les gens arrêtent de croire que les artistes étaient archi-cérébrales, etc. Genre, très souvent, c'est du hasard. Très souvent, on n'arrive pas à décrire ce qui se passe pendant le processus de création. Et ce n'est pas une réflexion, tu vois, qui mûrit de « Ok, il faut qu'on fasse ça de cette façon, et là, ça va être spécial, et là, truc et tout. » C'est vraiment un truc qui est instinctif. Et moi, par exemple, quand je crée un morceau comme « Alexis »,
Qui ouvre l'album,
qui est le premier morceau de l'album. Je ne saurais même pas te dire, excepté te dire Kanye, je ne saurais pas te dire quelles sont les inspirations, parce que c'est tellement vaste, tu vois.
C'est encore le fait d'avoir capturé à un moment donné un état d'esprit, un mood.
Exactement. Ouais. Et puis ça, tu sais, ça lit tellement de chansons. Ça se trouve, il y a un peu du Roi Lion dedans, ça se trouve, il y a de 808, ça se trouve, il y a tellement de choses. Et donc, je ne pourrais pas te dire directement de quoi c'est inspiré et à quoi j'ai réfléchi quand j'ai fait ça, parce que je n'ai même pas la réponse moi-même. Mais
ça répond un peu à cette question, en tout cas sur le fait qu'il n'y a pas eu de gamberge de votre part. C'est encore le fait de suivre un peu ses tripes.
C'est ça.
L'un et l'autre, lui, dans sa manière de, d'écrire, de vouloir raconter,
c'est
et
ça.
Toi, dans cette musique que tu lui as proposée, quoi.
C'est ça. Pour te dire, donc Alexis, qui est du coup, comme on le disait, qui est le premier morceau de l'album, quand je le crée à la base, le morceau, moi, je le nomme « Les enfants le chantent ». Parce que j'entendais des voix d'enfants qui chantaient un refrain, tu vois. Donc moi, je vais pas te le dire en anglais, c'est écrit en anglais, mais mon accent est des nazes. Mais du coup, j'envoie ça à Luigi avec ce titre-là. Et l'idée, c'était vraiment à la base de faire chanter des enfants. Mais on n'avait pas ce thème-là du tout, ça c'était en 2020. Tu vois, on n'avait pas du tout ce thème, on savait pas où ce que ça allait aller, etc. Quand on rentre dans le processus de l'album, on ressort ce morceau-là. Et là, Luigi, il trouve le truc, il trouve l'axe, il trouve la top line, il trouve le truc, etc. Et là, je suis en mode, mec, c'est trop ça, en fait. C'est trop ça. Inconsciemment, c'est littéralement ce qu'on voulait faire, en fait.
Et on retrouve en plus le thème de l'enfance sur le morceau, donc c'est
intéressant. Exactement, tu vois, et c'est pour ça que je trouve ça, c'est pour ça que je trouve ça incroyable. Et je suis très content de ce morceau, je le trouve réussi, donc ouais, c'est assez incroyable.
Je me souviens de ce visage. D'enfant à l'esprit si sauvage, un voyageur venu d'ailleurs.
Beaucoup de, évidemment, de choses très différentes, de teintes, de nuances sur cet album. Des choses effectivement comme Alexis, Téléfoot, avec finalement beaucoup d'instruments au sens noble du terme qui sont mis en avant, du piano, des cordes, etc. Et plus on avance et plus on a des choses variées, je pense à Sérénade, ce côté R&B très étouffé, quelque chose comme Cabine, presque Soul, et qui finit sur ce clin d'œil à Michel Fugain aussi, Baïa, ce retour des influences brésiliennes, bref, et même Monde, où tu es même crédité en featuring d'ailleurs, c'est intéressant, le morceau Monde, où je parlais de pop chanson tout à l'heure, on y est. De tout ça, est-ce qu'il y a un morceau en particulier auquel tu es attaché justement sur ce que tu as voulu développer musicalement sur cet album? Ce qui est peut-être plus difficile parce que c'est plus récent aussi, quoi.
Je pense que j'ai pas encore le recul nécessaire. Là, comme ça, je te dirais Cabine, parce que j'aime beaucoup ces sonorités-là. Il y a un artiste que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je dirais, ou un an et demi, qui s'appelle Q, que tu connais aussi, je crois.
Tout à fait.
Et il gère ces sonorités-là comme pas possible. Et je crois en plus qu'il produit ces morceaux pour la plupart du temps. Et j'étais presque complexé de ces sonorités-là parce que je me dis, putain, c'est incroyable, comment ça peut sonner aussi bien, ça sonne intemporel, tu vois, pourtant c'est très récent, mais on dirait que ça a été fait il y a 20 ans et on dirait que dans 20 ans ça aurait pu être fait aussi. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, où je me suis dit, ok, il faut que je réussisse à faire ça, tu vois, il faut que je réussisse à faire cette pop qui va sonner bien, en fait, qui va juste sonner, quoi, tu vois. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que, pareil, l'instru de Cabine, elle date de 2019-2018. Mais je l'ai remûri, je suis repassé, j'ai rajouté, j'ai enlevé, je suis repassé dessus 1 milliard de fois. Et je suis content de la version finalement telle qu'elle est aujourd'hui. Et du petit clin d'œil à Fugain à la fin, ça, c'est un truc que je voulais faire depuis tellement longtemps. Parce que mon père aime trop ce morceau et je me suis dit, un jour il faut en fait qu'on adapte ça, il faut qu'on trouve un moyen de le rentrer sans que ce soit kitsch, sans que ce soit cliché, etc.
Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure à propos du morceau Sirène, on est toujours à ça que ce soit mal fait sur ce genre d'intention, quoi.
Ça pouvait être ridicule, littéralement, tu vois. Et et on l'a fait comment, en fait, ce qui se passe, c'est que on l'a essayé de le rentrer dans plein de morceaux, ce truc de Fugain. Et je trouve que ça colle vachement avec la thématique de l'album, finalement. Et c'est pour ça que je voulais qu'on l'utilise aussi. Mais ce qui se passe, c'est que donc, Luigi enregistre une première ébauche de Cabine au Brésil. Et à la fin, donc, l'instru continue et tout, parce qu'elle n'est pas encore structurée. Et je lui dis, vas-y, chante, fais comme l'oiseau, s'il te plaît. Et lui, il est en troll, un peu en branlette, tout ça. Il commence à le chanter en mode, il se fout un peu de la gueule du truc. À la fin, il sort de la cabine, on écoute et on est en mode, putain, mec, c'est trop bien. C'est trop bien, il faut que ce soit ça. Donc, c'est pas encore la version avec la guitare.
Bien sûr.
Tu vois, à la fin, on est avec Oscar, du coup, Oscar Hemsch.
Qui est un musicien, chanteur.
Musicien, chanteur, pareil, il fait tout, c'est un crack. Et je trouve les accords de la fin de cabine et je demande à Oscar de les jouer à la guitare, du coup. Donc Oscar qui joue la guitare de ce truc et qui chante aussi à ce moment-là, je sais pas si on le sait parce qu'il est pas, je sais pas s'il est crédité dans le morceau, je crois que oui, mais il chante à la fin, donc avec Luigi, ils chantent tous les deux cette partie et je suis vraiment très très content qu'on l'ait fait, donc voilà.
L'oiseau finit par s'envoler,
Dernière question sur cet album. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, tu disais les verbes d'enlever et d'ajouter justement sur ce morceau Cabine. Mmh. À l'écoute de cet album, j'ai l'impression que justement, il y a eu la volonté, l'intention, ou finalement le résultat final, d'enlever justement. Je trouve que c'est beaucoup plus épuré dans l'approche musicale. Est-ce que c'est né d'une réflexion de ta part avec du recul sur ta propre musique, ou c'est précisément aussi à force d'écouter, de réécouter, finalement on se rend compte qu'en enlevant parfois, ça permet de mieux faire vivre les morceaux, quoi.
C'est ça. En fait, là, pour le coup, il y a une réflexion qui est que... enfin, moi, s'il y a un truc auquel je me fixe, c'est d'essayer de faire une musique qui va le mieux vieillir possible. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour un truc de mieux vieillir, c'est de l'épurer, quoi. Qu'il soit simple. Tu ne prends pas trop de risques. Il peut rarement y avoir de faute de goût. Et c'est un peu comme, je sais pas, moi, le design d'un appartement, plus c'est simple, plus ça va durer longtemps et moins ça va te faire chier de rentrer dans la pièce et de voir telle déco, tel fauteuil un peu spé et tout. Donc, il y avait vraiment cette intention de faire une musique qui est agréable à écouter, qui est simple, qui n'est pas chargée en informations. C'est pour ça qu'un morceau comme Joueur 1, par exemple, il n'y a pas de drums, parce que je trouve que le groove existe déjà avec les violoncelles qui jouent, etc. La contrebasse, le piano, je trouve que ça se suffit, en fait. Et puis, ben voilà, Luigi, le couplet de Luigi, le couplet de Turi viennent rajouter ben la cadence à ce morceau. Je trouve que ça suffit amplement, musicalement parlant. Et par exemple, un morceau comme Sérénade, il n'y a pas d'hi-hat, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment que kick, snare, tu vois. Pareil, je trouve que ça se suffit parce que bah, la basse, elle ajoute aussi ce groove-là, les guitares, les trucs, etc.
Donc, l'interprétation de Luigi aussi.
L'interprétation, elle fait énormément. Donc voilà, en fait, tout simplement. Tout simplement, j'ai vraiment pour intention de faire une musique... et j'espère réussir au long terme, mais faire une musique qui vieillira le mieux possible. Tu vois, j'ai envie de pouvoir réécouter mes trucs dans 20 ans, les faire écouter peut-être à mes enfants si j'en ai, ou à mes neveux, nièces, peu importe. Et que ça puisse être toujours d'actualité et toujours agréable à écouter, quoi.
On a balayé, depuis 2017, 8 ans. Non, j'exagère peut-être là, 6 ans, j'arrive plus à compter.
Je sais plus, je sais pas compter.
Ouais, c'est ça. 6 ans, on a balayé 6 ans de présence discographique. Si on parle d'avenir proche ou un peu plus éloigné, c'est quoi tes envies là, bientôt? Est-ce que tu veux continuer à faire de la musique en ton nom? Est-ce que tu veux continuer à développer ta patte de réalisateur avec les artistes du label ou d'autres artistes? Voilà, c'est quoi un petit peu ce que tu as en tête pour un avenir proche ou un peu plus lointain?
Bah, pas mal de choses en vrai. Déjà, j'ai envie de bosser un peu plus avec Turi. J'ai envie de bosser un peu plus avec Turi. J'ai envie qu'on continue sur cette lancée-là avec Luigi aussi. J'ai envie de faire un album en mon nom, tu vois, avec des invités, etc. Bon, ça fait un moment que j'en parle, mais là, j'ai trouvé un axe, j'ai trouvé une thématique, donc je vais commencer à le produire là bientôt, tu vois. Et j'ai très envie de réaliser des albums pour d'autres artistes. Et ça aussi, ça fait un petit moment que j'en parle. Mais par exemple, j'ai pendant longtemps très eu envie de bosser avec Weshden.
Okay.
Ça peut être très, très contraire à la musique que je fais, mais justement, j'avais beaucoup d'intentions par rapport à ça. Avec des artistes comme Aya, par exemple, tu vois, qui sont très éloignés de la musique que je fais et des artistes avec lesquels je bosse de manière générale. Mais justement, c'est un challenge qui m'intéresse beaucoup. Et puis d'essayer d'emmener ces artistes-là sur un terrain qui me ressemble un peu plus, sans pour autant dénaturer leur musique.
Bien
et
sûr.
Puis en faire complètement autre chose. Hein. Mais d'apporter cette patte-là et ce truc-là. Donc voilà. Mais je pense que la priorité, vraiment, c'est un premier album que j'aimerais bien faire, vraiment. Ça, c'est le truc auquel je pense le plus.
Très bien. Et bon, surveillera le ciel, comme on dit.
Ouais, si je déteste. Surveiller le ciel.
Surveiller le ciel.
Si, mixtape bientôt.
Voilà. En tout cas, on suivra de près. En tout cas, moi, je suivrai de près, puisque, bon, bah, voilà, tu le sais, j'aime beaucoup ta musique.
Et
c'était cool de t'avoir aujourd'hui, justement, pour parler de tout ça, de tes réflexions musicales, de tes intentions et de tout ce travail qui a été fait sur ces disques dont on a parlé. Dernière question, comme ça, spontanément. Si aujourd'hui, tu dois te présenter à quelqu'un en un morceau que tu as produit, ce sera lequel?
Ah putain, c'est dur comme...
Je sais.
Franchement, c'est trop relou comme question. Je sais pas parce que.
Mais je vous mets à l'aise, tu vois. Je vous passe un peu dans le sens du poil dans cette émission. Donc j'aime bien sur la dernière question être un peu, tu vois, sur un truc un peu plus chiant.
Ouais. En fait, franchement, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que j'ai pas produit dans les morceaux qui existent, en tout cas, deux morceaux qui se ressemblent.
Oui.
Ça veut dire que y a aucun morceau qui sera vraiment représentatif de ce que je fais. Et d'ailleurs, ça, je m'en rends compte quand y a des artistes qui m'envoient des messages pour que je leur envoie des instrus. Je ne sais pas à quoi ils s'attendent, mais moi, quand je leur envoie un truc, ça ne va pas être Gisèle partie 2, ça ne va pas être Nazaré partie 2, ça ne va pas être Alexis partie 2, tu vois. C'est toujours des trucs très singuliers. Donc après, franchement, c'est compliqué, mais peut-être je dirais Baïa, je pense.
Ok, Baïa qui est sur le dernier album de Louis, justement.
Sur le dernier album, ouais, Baïa.
J'ai écouté ce qu'on m'a dit, puis j'ai fait l'inverse. They don't care about us, babe. Je redeviens gosse, assis sur le pilori.
Merci à toi d'avoir été présent.
Merci à toi, Raphaël.
Merci beaucoup, Ryan. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec les producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien et à très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.